franceinter.fr. La revue de presse de Pascal Dervieux. Bonjour Pascal.
Bonjour Patricia, bonjour à tous.
Victory, sweet victory, c'est ce cri du cœur qui nous vient de Londres ce matin.
Et oui, c'est le titre du Times et il n'illustre pas un énième compte-rendu des commémorations du 8 mai 45. Il se trouve que chez nos voisins britanniques, la victoire est aussi une notion d'actualité puisque le Premier ministre sortant, le conservateur David Cameron, peut entamer un nouveau mandat au 10 Downing Street après la victoire de son parti aux élections. Le Times nous rappelle cet autre résultat du scrutin, digne celui-là de figurer au livre Guinness des records, c'est que dans les 52 minutes qui ont suivi l'annonce des résultats, les trois dirigeants des partis vaincus ont démissionné. Mais le grand quotidien londonien relève une autre conséquence de ces élections triomphales, c'est l'inquiétude des Européens, bien sûr. L'Europe craint que la Grande-Bretagne se dirige vers la sortie, soulignent nos confrères britanniques. Cette inquiétude, nombre d'éditorialistes de la presse française s'y attardent ce matin. Jean-Pierre Bédaï, par exemple, dans la Dépêche du Midi, qui nous rappelle que si, à titre personnel, Cameron est plutôt favorable au maintien de son pays dans l'Union, une large partie de la population britannique y est au contraire opposée. Le Premier ministre a promis un référendum sur la question d'ici 2017. En attendant, l'éditorialiste de la Dépêche prévoit que Cameron sera donc contraint de se faire plus dur envers l'Europe afin d'obtenir des concessions susceptibles d'amadouer son peuple. Pour Yvarté dans Sud-Ouest, ce référendum est un pari très risqué, car si le non au maintien l'emportait, autrement dit si une majorité de Britanniques se prononçait en faveur de la sortie de l'Union européenne, eh bien on se retrouverait devant ce comic paradoxe, c'est mon confrère qui emploie cette expression, la très europhile Écosse demanderait et obtiendrait à coup sûr son indépendance, sans l'Écosse, avec une Irlande du Nord qui regardera davantage encore vers le Sud, eh bien Cameron pourrait devenir le roi victorieux, errant dans un palais vide, conclut l'éditorialiste de Sud-Ouest.
Et toujours à la page internationale, Pascal, la presse consacre ce matin beaucoup d'espace aux commémorations de la victoire. C'était hier à l'Ouest, mais ce sera aujourd'hui chez l'un des principaux artisans de cette victoire.
Oui, Libération publie une splendide photo prise il y a quelques jours sur la Place Rouge au moment de la répétition du grand défilé militaire qui marque traditionnellement la victoire. Vous savez que les Russes la célèbrent le 9 mai. Cette année, la parade prendra une dimension exceptionnelle, mais Libé en rappelle le contexte international. Pour cause de situation en Ukraine, la plupart des dirigeants occidentaux n'assistent pas à la parade. Libé analyse les manœuvres de l'appareil de propagande du Kremlin qui manipule plus que jamais la mémoire russe, notamment celle de la guerre, à son seul profit. Les dernières nouvelles d'Alsace consacrent elles aussi une large place au défilé de Moscou en rappelant que le Kremlin a annoncé une parade grandiose avec un défilé des matériels qui s'apparente à un véritable salon de l'armement. On y verra notamment ce nouveau char que les Russes, avec leur modestie coutumière, qualifient de plus puissant blindé du monde.
Une fois n'est pas coutume, si vous n'êtes pas un lecteur des journaux sportifs, je ne dis pas ça pour vous Chantal Joanneau, parce que je pense que vous les lisez, vous pouvez faire une exception aujourd'hui en achetant l'Équipe Magazine.
Oui, c'est le jour. L'Équipe Magazine consacre en effet ce numéro à un dossier passionnant. C'est Cuba et le sport. À deux jours de la première visite d'un président français dans une île en plein bouleversement, nos confrères de l'hebdomadaire sportif nous invitent à rencontrer deux des plus grandes idoles du pays, Javier Sotomayor, sauteur en hauteur, dont le record du monde à 2,45 m tient toujours depuis plus de 21 ans. Et puis Félix Sabon, triple champion olympique de boxe chez les poids lourds. L'Équipe Magazine ne pouvait pas ne pas parler de ce grand paradoxe sportif de Cuba, un pays qui depuis 56 ans défie l'Amérique voisine, mais qui pratique pourtant avec délice son sport le plus emblématique, c'est le baseball. Non seulement le baseball a survécu à la révolution castriste, mais il atteint un tel niveau de qualité que tous les grands clubs des États-Unis viennent y recruter, nous explique l'Équipe Magazine.
Restons dans le domaine sportif et ne mâchons pas nos mots, c'est bien une page d'histoire que les Bordelais vont tourner ce soir.
Oui, et c'est le journal Sud-Ouest qui l'affirme et on n'a aucune peine à les croire. Les Girondins disent adieu à leur stade ce soir, le Parc Lescure pour les anciens. Inauguré en 1938, il était devenu le stade de Chaban-Delmas après le décès du maire de la ville. Un maire dont la silhouette, souvent drapée de son imperméable, remplissait à chaque match la tribune présidentielle. Pour cette dernière rencontre, les Bordelais reçoivent les Canaries de Nantes. Sud-Ouest consacre à l'événement trois pages entières. Des pages pleines de nostalgie qui nous ramènent à cette époque où les vedettes du club s'appelaient Alain Giresse, Jean Tigana ou Marius Trésor.
Autre grande ville de football, Marseille. Marseille, championne de France.
Oui, mais championne de France des mariages. Le nombre des mariages est partout en baisse dans l'Hexagone, partout sauf à Marseille. Et la Provence se penche sur ce particularisme ce matin. Un particularisme qui va à l'encontre des clichés, qui montre un Marseillais plutôt cavaleur, bringueur, infidèle. Foutaise!
Le français, quoi, en fait. Oui, pas le Marseillais, le français.
Donc, je reprends l'exclamation de mon grand frère marseillais et je la laisse dans sa bouche. Oui. Foutaise! Car le Marseillais convole. Le nombre de mariages ne cesse de croître à l'ombre de Notre-Dame de la Garde. Plus de 10% d'augmentation en 2 ans. On annonce 3200 mariages en 2015, peut-être plus. Pour l'un des adjoints au maire, l'explication est simple, c'est sans doute qu'on est plus heureux à Marseille qu'ailleurs.
C'est un coup de gueule que l'on peut lire dans le Figaro.
Oui, c'est une lettre ouverte, et on terminera avec ça. Une lettre ouverte, le destinataire en est le président de la République, le rédacteur, Jean d'Ormesson. En fait, l'académicien s'adresse au chef de l'État, mais il couvre surtout d'invectives ce qu'il appelle les Attilas de l'éducation. Catégorie à la tête de laquelle l'écrivain place sans embâge la ministre de l'Éducation elle-même, Najat Vallaud-Belkacem. Car la réforme des programmes en préparation n'a pas, mais alors pas du tout, les faveurs de l'immortel. Il estime en effet que cette réforme va entraîner, à plus ou moins brève échéance, un affaiblissement dramatique de l'enseignement du latin et du grec, et de l'allemand par-dessus le marché. Après quelques pics trempés dans les références littéraires les mieux senties, d'Ormesson estime que couper la langue française de ses racines grecques et latines serait la condamner de propos délibérés à une mort programmée. « Nous sommes les enfants d'Homère et de Virgile », s'exclame Jean d'Ormesson, qui lance au chef de l'État cette supplique « Ne soyez pas aux yeux de l'histoire le président qui aura tiré un trait final » sur plus de 1000 ans de littérature française. Jean d'Ormesson, décidément, qui persiste dans cette particularité, c'est que même ceux qui ne partagent pas ses idées ne peuvent que s'incliner devant son talent à les exposer. C'est un petit peu comme vous, Patricia.
C'était la revue de presse de Pascal Dervieux.